Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers Grégoire, cette cérémonie de la vigile fait une large part au récit de la délivrance des Hébreux de la main des Égyptiens. Tout d'abord, l'exultète, on a fait mention, surtout la deuxième lecture que nous avons entendue, nous a raconté le désastre total de l'armée égyptienne dans les eaux de la mer Rouge. Et enfin, la bénédiction de l'eau baptismale, elle aussi, a fait mention de cette délivrance et de ce passage de la mer Rouge. Comment s'est produit ce grand miracle? Les Hébreux venaient de quitter l'Égypte et après 3 jours de marche, ils campaient en deçà de la mer Rouge. Et alors qu'ils étaient en train de camper, ils entendirent soudain un grondement sourd, celui d'une armée en marche. Puis peu à peu, sur les crêtes au loin, ils aperçurent les troupes de Pharaon qui se déployaient en ligne de bataille. Celui-ci avait massé près de 600 chars de combat, plus de 50 000 cavaliers et près de 200 000 fantassins très bien armés. Les Hébreux étaient pris comme dans une souricière, à leur droite la mer Rouge, devant eux et sur la gauche, les monts escarpés de ce qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Araba, et derrière eux, l'armée de Pharaon. Il n'y avait aucun moyen d'éviter le massacre général. Les Juifs, pris de crainte, invectivaient Moïse, l'accusant de les avoir trahis, de les avoir conduits à une mort certaine. Celui-ci, sans se départir de cette douceur qui lui était quasi naturelle, priait Dieu avec confiance. Sur l'ordre de Dieu, il conduit le peuple hébreu vers la mer Rouge. Mais le jour commençait à décliner et les Égyptiens qui ne voulaient pas laisser échapper leur proie et en finir avant qu'il fasse nuit, hâtaient les préparatifs du combat. Alors, soudain, la colonne de nuée qui se tenait à l'avant du peuple juif, au lieu de se transformer en colonne de feu, comme à l'habitude, passa à l'arrière des fugitifs. Sur l'une de ses faces, elle se transforma en un écran opaque, ténébreux, et de l'autre, au contraire, elle était très lumineuse, jetant ainsi les Égyptiens dans une nuit profonde, et les Hébreux y voyaient au contraire eux comme en plein jour. Moïse, arrivé au bord de la mer Rouge, se mit en prière, puis à nouveau sur l'ordre de Dieu, il étendit son bâton au-dessus de la mer et celle-ci se fendit en deux. Au même moment, un vent violent, très fort, se mit à souffler, qui assécha totalement le chenal et ainsi les Hébreux purent passer. Et ce fut la tribu de Juda qui s'élança la première. Le passage dura un certain temps, puisqu'au petit matin, lorsque le jour se leva, les derniers Hébreux étaient encore en train de passer. Les Égyptiens, qui avaient attendu fébrilement la nuit, ce qu'ils avaient vu aurait dû leur servir de leçon. Eh bien non, cet esprit de vengeance, de haine, les animait toujours. Et dès que le jour se fit, ils s'élancèrent à la poursuite des fuyards, et malgré ces deux murs d'eau, chose miracle incroyable, ils se jetèrent tête baissée dans le chenal. Mais lorsque le dernier Hébreu eut franchi l'autre rive, une pluie violente, comme on n'en avait jamais vu, se déchaîna. Le chenal devint un bourbier incroyable, les chars pataugeaient, les chevaux n'avançaient plus. Ce fut une panique incroyable. Les Égyptiens comprirent leur erreur, que Dieu était contre eux. Il voulait faire demi-tour. C'était Tout était en grand désordre. Alors Dieu donna l'ordre à Moïse d'étendre à nouveau la main sur les eaux de la mer Rouge. Ce que fit Moïse. Et les flots impétueux se jetèrent dans le chenal, et l'armée de Pharaon tout entière fut anéantie. Il n'y eut pas un seul survivant. Pourquoi la liturgie insiste-t-elle tant sur ces faits en cette vigile? Ce n'est pas tant pour eux-mêmes, pour leur portée historique. Bien sûr, ces événements sont divinement révélés et nous devons les croire de foi divine. C'est la révélation, c'est la Sainte Écriture. Et ce miracle est d'ailleurs considéré comme l'un des plus grands miracles de l'Ancien Testament. Cependant, ces faits annoncent un autre événement qui les dépasse de très loin. Quel est cet événement préfiguré par le passage de la mer Rouge? Est-ce la résurrection de notre Seigneur? On pourrait s'y attendre en cette vigile pascale. Eh bien non. Ce qui symbolisera la résurrection, ce sera l'entrée dans la terre promise. Le passage de la mer Rouge est un symbole du baptême, et même un des plus beaux symboles de cette régénération qu'apporte le baptême. D'ailleurs, cette cérémonie pascale est pleine de ce symbolisme du baptême chrétien. Pourquoi alors tourner nos regards vers le baptême en cette cérémonie où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur? Pour répondre, reprenons le récit du passage de la mer Rouge. Les eaux de cette mer représentent les eaux du baptême. Elles sont rouges, car elles ont été rougies par le sang de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui donne aux eaux du baptême toute leur vertu de régénération. Et l'âme qui est plongée dans les eaux du baptême est plongée comme dans un bain de miséricorde, où elle en sort totalement purifiée. Elle quitte la servitude d'Égypte pour entrer dans une nouvelle vie. C'est une seconde naissance. D'ailleurs, tous les péchés de celui qui reçoit le baptême sont entièrement détruits, comme l'armée de Pharaon. Il ne reste plus rien. Le péché originel est effacé. Les péchés qu'il a pu commettre dans sa vie passée sont eux aussi totalement effacés. Il ne reste rien. Et même la peine que méritaient ces péchés, cette peine à payer pour les péchés que nous commettons, eh bien tout cela est effacé, il ne reste rien. L'âme est rendue toute pure, toute pure. Pourquoi un effet si puissant? Saint Paul nous donne la réponse. Ignorez-vous, nous dit-il, que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, nous avons été baptisés dans sa mort, car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir. Et saint Thomas a des termes on ne peut plus forts. Voici ce qu'il dit: « A tout baptisé et communiqué la passion du Christ, comme si le baptisé avait souffert et était mort sur la croix lui-même. » Et on comprend que tout soit effacé. Ce n'est pas une petite chose. C'est toute la rédemption de notre Seigneur qui coule dans l'âme du baptisé, avec toute sa puissance, toute sa vertu divine. Le mot « Pâque » d'ailleurs signifie « passage ». D'abord, passage, bien sûr, des Hébreux par la mer Rouge, mais plus profondément, de la même manière que notre Seigneur est ressuscité des morts, qu'il est passé de la mort à la vie, le baptisé passe par le baptême de la mort à la vie de Dieu, de la mort du péché à la vie divine, à la vie de la grâce. C'est une participation à la mort de notre Seigneur et à sa résurrection. Cependant, cette purification du péché n'est qu'un effet préliminaire, quoique déjà considérable. La fin positive du baptême est constituée par l'entrée dans le royaume de Dieu aux côtés du Christ. Et à vrai dire, à contempler à la lumière de Dieu, à la lumière de la foi, les richesses qu'apporte le baptême à une âme, on ne peut rester que dans l'émerveillement. Le baptisé est en effet introduit tout entier dans la famille de Dieu. La grâce sanctifiant qu'il reçoit le rend participant de la vie même de Dieu. Il est adopté par Dieu. Dans un sens beaucoup plus fort que dans les adoptions d'ici-bas, puisque Dieu lui donne de vivre de sa vie à lui divine même. Il devient en toute réalité fils de Dieu. On parle de filiation adoptive pour distinguer de la filiation naturelle divine qui ne convient qu'à la deuxième personne de la Trinité. Et cet esprit d'adoption que reçoit le baptisé lui permet d'appeler en toute vérité Dieu son Père. Ce sont les paroles de saint Paul. L'Esprit Saint fait de vous des enfants de Dieu et nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». Quelle intimité entre une âme baptisée en état de grâce et le bon Dieu. C'est toute la Trinité qui regarde avec amour une âme en état de grâce. Et les anges ne s'y trompent pas. Pensons au saint curé d'Ars. Il sentait les âmes en état de grâce. Elles avaient une bonne odeur. Au contraire, celles en état de péché sentaient plutôt mauvais. Une odeur effroyable. Bien sûr, une certaine obscurité demeure. Il y a le voile de la foi. Et cette présence de Dieu, si elle est cachée, n'en reste pas moins réelle. Notre Seigneur lui-même a dit « Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons en lui et nous établirons chez lui notre demeure. » C'est ce qui se produit au baptême. Bien entendu, ce n'est pas encore le ciel. Il y aura des épreuves, des croix. Mais cette vie surnaturelle qui est au-dessus de la nature nous est donnée vraiment en germe. Cette vie qui est donnée est le germe de la gloire. C'est la même vie que nous aurons quand nous serons au ciel dans la gloire. Cher Grégoire, vous allez dans quelques instants passer par les eaux du baptême. En premier lieu, soyez vraiment dans l'action de grâce. Remerciez le bon Dieu de vous avoir appelé à lui. C'est notre Seigneur qui est venu vous chercher, qui vous a fait ce don de la foi. Ce n'est pas un petit cadeau. Pensez également que si vous avez connu, sans doute, à votre conversion, des consolations abondantes, car c'est la manière habituelle de procéder du bon Dieu, vous aurez dans la suite, sans doute, des épreuves, des sécheresses. Vous allez en quelque sorte errer dans le désert, comme les Hébreux. Ce n'est pas encore la terre promise. Notre Seigneur vous appelle à sa suite à porter votre croix, à souffrir avec lui. Sachez cependant que malgré l'aridité du désert, malgré les fatigues de la route, du chemin, en ce monde inhospitalier, vous serez nourris par une nourriture toute céleste. De même que les Hébreux, pendant ces 40 ans dans le désert, ont eu pour secours la manne, tombée du ciel pour les nourrir. Vous aussi, vous aurez cette nourriture toute divine qu'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui se donnera à vous dans la communion à la Sainte Messe. Pensez à cette première communion que vous allez faire aujourd'hui. Notre Seigneur va descendre en vous pour vous nourrir et vous redonner toutes les forces dont vous aurez besoin pour cette marche jusqu'au ciel, malgré toutes les difficultés. Sachez également que le chemin à prendre dans ce désert vous est donné aujourd'hui, dans les promesses de votre baptême. Il n'y a pas à chercher ailleurs un chemin pour aller au ciel. Tout est dit au baptême. Cette renonciation à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, cet attachement à notre Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, par la foi, la prière, les œuvres de charité, tout est là. Pensons à Saint-Louis-Marie, toutes ses missions qu'il a prêchées dans l'ouest de la France. Chaque fin de mission se concluait par les rénovations des promesses du baptême. Et Saint-Louis-Marie insistait beaucoup là-dessus. Et on a vu les fruits lors des guerres de Vendée. Ce sont ces régions évangélisées par Saint-Louis-Marie qui ont tenu. Comptez réellement sur notre prière pour que vous soyez toujours fidèles à ses promesses et que lorsqu'il vous faudra comparer devant Dieu, eh bien vous soyez trouvés fidèles. Nous prierons aussi pour vous, la Sainte Vierge Marie, qu'elle vous protège et vous conduise aussi au port du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.